L'agroécologie. On m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est.
McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans.
Agro j'écoute. L'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro j'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano.
Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire.
En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan.
Avez-vous remarqué l'augmentation inquiétante du prix des carburants ces derniers temps? Le litre de gasoil est monté à 1,55€ contre 1,06€ il y a 10 ans. Hier, je n'ai même pas fait le plein entièrement et ça m'a limite coûté le double de d'habitude. Mais que faire face à cette augmentation? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, Clara et Julie?
Personnellement, je commence à me demander si les énergies non renouvelables, comme le pétrole, sont les plus économiques, de plus que leurs réserves s'épuisent de jour en jour.
C'est vrai qu'il faudrait peut-être plus changer nos habitudes parce que là, on paye clairement pour polluer. Alors moi, je me demande si passer au biocarburant, ça ne serait pas plus avantageux. En plus, j'ai de plus en plus de voisins qui prennent du bioéthanol à la station essence.
Alors ça tombe bien, on s'est penché sur la question et on va tenter d'éclaircir le sujet avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans l'émission Agro J'écoute sur Campus FM. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Clara Menanteau.
Bonjour.
Julie Estrade.
Bonjour.
Et moi-même, Alice Guillet. Est-ce que tout le monde va bien?
Impeccable.
Ça va très bien, merci.
Super, je vais très bien aussi. Nous sommes trois étudiantes agronomes à l'école d'ingénieurs de Purpan et nous allons vous parler des biocarburants. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, on va revenir sur le terme biocarburant parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Clara, tu nous en parlais tout à l'heure avec l'histoire de tes voisins. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qu'est un biocarburant ?
Alors, selon la définition donnée par IFP Énergie Nouvelle, anciennement l'Institut français du pétrole, le terme biocarburant concerne tous les carburants issus de matières organiques végétales ou animales, qu'elles soient terrestres ou aquatiques. Les biocarburants conventionnels vont utiliser des ressources issues du secteur alimentaire. Donc par exemple, une même matière première comme le maïs va pouvoir avoir deux débouchés, soit la production à destination de l'alimentation, soit la conversion en biocarburant. Ensuite, on a les biocarburants dits « avancés », qui regroupent des ressources qui ne vont pas rentrer en compétition avec l'alimentaire, comme le bois ou les algues. Et actuellement, on roule tous avec des biocarburants, mais tout dépend du pourcentage intégré. Par exemple, dans le gasoil B7 que l'on achète, le fameux pistolet jaune, on va retrouver 7% de biodiesel dans sa composition, tandis que dans le sans-plomb 95 E10, le pistolet vert, il y a 10% de bioéthanol. Mais alors vous me direz, pourquoi augmenter le pourcentage de biocarburant? Eh bien parce qu'il constitue une alternative au pétrole qui nous permettrait de réduire l'utilisation de carburants issus des fonds pétroliers et de réduire potentiellement l'empreinte environnementale du secteur transport.
Donc tu nous as dit plutôt que les biocarburants conventionnels rentrent en compétition avec l'alimentaire. Est-ce que ça n'a pas posé un problème sur le long terme ?
Très bonne remarque, d'autant plus que ce n'est pas le seul problème. En effet, certains biocarburants, bien qu'ils soient tous dans l'ensemble une alternative prometteuse, sont confrontés à certains enjeux environnementaux ou économiques qui peuvent remettre en cause leur viabilité d'utilisation sur le long terme.
Alors dans ce cas, les biocarburants sont-ils vraiment la solution d'avenir pour réduire la dépendance aux énergies fossiles ? C'est la question qui fait débat aujourd'hui.
Avant toute chose, il faut savoir que les biocarburants sont classés en différentes catégories en fonction des ressources qu'ils utilisent et des procédés qui les fabriquent. On distingue les biocarburants de première génération, dont je vais parler tout de suite, qui sont élaborés à partir des réserves contenues dans les plantes, qui peuvent être sous forme de sucre, amidon, huile et graisse végétale. On distingue ensuite la deuxième génération, qui va revaloriser de la biomasse lignocellulosique, telles que les déchets végétaux, comme des sueurs de bois et des résidus de plantes cultivées, par exemple. Et enfin, la troisième génération, qui va utiliser l'ingéniosité des micro-organismes aquatiques, comme les micro-algues, pour faire rouler nos voitures.
Ah oui, il y a de quoi faire. Là, il y a une belle diversité de matières premières. Mais concernant la première génération, concrètement, comment on fait pour passer d'une plante à un biocarburant qu'on met dans nos voitures ?
Alors, c'est très simple. Tout d'abord, on va chercher à extraire les composants qui nous intéressent, c'est-à-dire les huiles que l'on va convertir en ester d'huile pour faire du biodiesel, ou alors aussi appelé ester méthylique d'huile végétale, ou EMHV. On va aussi extraire les sucres et l'amidon, qui après fermentation donnent de l'éthanol, qui fera du bioéthanol. Concernant les huiles végétales, en Europe, elles sont extraites de plantes oléagineuses, telles que le colza et le tournesol. Dans d'autres pays, c'est différent, puisqu'aux États-Unis, on va utiliser du soja et en Asie, le palmier à huile.
Mais en termes de surface agricole nécessaire, ça représente quoi exactement ? J'arrive pas à me représenter la surface de culture qu'il faut avoir pour un litre de biocarburant, par exemple.
Alors, pour les estimations, on va raisonner en tonnes d'équivalent pétrole, c'est-à-dire la quantité d'énergie contenue dans une tonne de pétrole brut. Par exemple, pour la production de biodiesel, un hectare d'huile de palme va nous permettre de produire 4,5 tonnes d'équivalent pétrole, soit 5400 litres de biodiesel. Un hectare de colza produira une tonne d'équivalent pétrole, soit 1200 litres de biodiesel. Et un hectare de soja européen produit en général 0,4 tonnes d'équivalent pétrole, soit 480 litres de biodiesel.
Mais il me semble que tu parlais de sucre et d'amidon tout à l'heure. Et de quelles plantes ils viennent, ceux-là ?
Le sucre et l'amidon sont issus de la betterave, du blé, du maïs en Europe, ou encore de la canne à sucre au Brésil. Et après fermentation, ils sont transformés en éthanol pour être mélangés à de l'essence. Par exemple, un hectare de betterave permettra la production de 3,7 tonnes d'équivalent pétrole, soit 4884 litres de bioéthanol. Tandis qu'un hectare de maïs produira seulement 2,1 tonnes d'équivalent pétrole, soit 2772 litres de bioéthanol.
Mais alors du coup, en quoi cette première génération de biocarburants est la solution pour diminuer l'utilisation du pétrole ?
Alors ce n'est pas si simple. Pour établir le bilan environnemental d'un biocarburant, il faut prendre en compte chaque étape de production, depuis la culture de la plante, en considérant la consommation d'énergie des engins agricoles et l'utilisation d'engrais ou d'eau, jusqu'à son utilisation finale dans un véhicule, en passant évidemment par la fabrication à proprement dite. Toutefois, le bilan varie sensiblement selon les filières, en fonction de l'espèce végétale utilisée, la région de production et la région de consommation, le mode de production agricole ou encore le mode de production industriel. D'après l'IFPEN, le bilan des émissions de gaz à effet de serre, en prenant en compte la culture de la ressource, son transport et sa conversion, fait apparaître une réduction de 45% à 60% d'émissions de CO2 pour la première génération par rapport aux carburants fossiles.
C'est vrai que c'est génial, mais pour en revenir à la question que je m'étais posée en début d'émission, d'un point de vue global, il risque d'y avoir des conflits d'usage au niveau du partage des sols qui assurent l'alimentation, non ? D'autant plus que cette alternative est possible dans les pays développés, mais qu'en est-il des pays en développement ?
Oui, c'est vrai qu'en utilisant des productions pouvant être aussi alimentaires, la première génération entre en concurrence directe avec la consommation humaine et animale et ajoute une menace à la sécurité alimentaire de certains pays, notamment des régions pauvres du monde. Par ailleurs, la culture de la matière première peut être source de déforestation, comme le cas des forêts primaires qui sont défrichées pour planter du palmier à huile, par exemple, ce qui engendrerait d'autres problèmes environnementaux. Cependant, de nos jours, il existe une façon de limiter l'usage des ressources alimentaires pour le biodiesel. On utilise de plus en plus de graisses et huiles usagées, comme par exemple les huiles de friture collectées dans les restaurants ou les fast-foods, mais également les graisses d'abattoir ou autres résidus de graisse animale. Le fait d'utiliser ces résidus va permettre de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre.
Et en plus des problèmes environnementaux, je me doute qu'il doit aussi y avoir des enjeux économiques, non ?
Très juste, il est important de souligner que leur production coûte, pour la plupart, plus cher que celle de l'essence ou du gazole. Le surcoût est essentiellement dépendant du prix de la ressource, et en particulier de l'huile pour les filières biogazole, et également des coûts de main-d'œuvre dans les différents pays.
Mais je me doute que les autres générations de biocarburants ont été développées en prenant en compte tous ces aspects. C'est ce que nous allons voir après l'interlude musical qui arrive tout de suite. Restez branchés.
Muito a
Après ce court interlude musical, on est toujours sur Campus FM et nous sommes de retour pour parler cette fois-ci des biocarburants avancés et plus particulièrement de la deuxième génération. Nous avons vu que les biocarburants conventionnels ont certains avantages environnementaux, cependant ils sont en concurrence avec le secteur alimentaire. Le colza ou les betteraves utilisées pour faire des biocarburants ne pourront être mangées. C'est donc pour pallier ce problème de compétition avec le secteur alimentaire que la deuxième génération a été développée.
C'est ça. Le type de biocarburant dont je vais vous parler utilise de la biomasse lignocellulosique. Il peut s'agir de résidus de récolte, comme des pailles ou des résidus de canne à sucre, des résidus forestiers tels que du bois de rebut non conforme à l'industrie du bois, ou encore des sciures et des copeaux.
Et comment ces matières premières aboutissent au biocarburant ?
Alors pour ça, il y a deux voies, la voie biologique ou fermentaire et la voie thermochimique. La voie biologique va permettre de produire du bioéthanol à l'aide d'enzymes. Ces enzymes vont dégrader les tissus de la plante pour faire ressortir les sucres. Ces sucres seront alors fermentés pour obtenir de l'alcool, le fameux bioéthanol. Et puis il y a la voie thermochimique. Les déchets vont être soumis à de fortes températures et pressions, puis vont produire un gaz de synthèse composé d'hydrogène et de monoxyde de carbone. Ce gaz va ensuite être converti en hydrocarbures de synthèse d'origine végétale. Et le bioéthanol et les hydrocarbures produits à partir de déchets végétaux seront alors mélangés aux hydrocarbures produits à partir de pétrole.
Et de fait, comme les biocarburants de première génération, on les additionne au pétrole pour faire de l'essence ou du gazole ?
Oui, c'est exactement ça. En ce moment, il y a des recherches qui sont menées sur des mélanges d'essence classiques avec des hydrocarbures et bioéthanol produits à partir de déchets végétaux. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres projets qui sont en cours pour étudier d'autres types de végétaux, comme le miscanthus géant, pour sa productivité et sa valeur énergétique. Et en plus, ce type de végétaux dont les besoins en nutriments seraient faibles pourrait croître dans des sols pauvres.
Mais concernant les déchets végétaux, est-ce que concrètement on en produit assez pour pouvoir fabriquer du biocarburant en quantité suffisante ?
Alors, les ressources pour ce type de biocarburant sont bien plus importantes que les ressources alimentaires. Le marché des biocarburants lignocellulosiques est encore très faible aujourd'hui, uniquement pour des questions économiques.
Merci Clara pour ces informations. On voit clairement que se passer du pétrole n'est pas chose aisée. Pour compléter tes propos, nous avons le plaisir d'accueillir Daphne Land, qui est ingénieure économiste au département économie et évaluation environnementale de l'IFP Énergie Nouvelle. Bonjour Daphne et merci pour votre présence aujourd'hui.
Bonjour, bonsoir à tous.
Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer quelle est la réglementation actuelle sur les biocarburants ?
Alors, il faut avoir en tête que la réglementation peut être assez complexe. En France, on est principalement soumis à un régime communautaire, hein, donc un régime de réglementation qui sont définis à l'échelle européenne. Donc ça, c'est une particularité qui existe dans la plupart des produits énergétiques, hein, dans la mesure où, en tout cas, dans ce qui concerne les carburants pour le secteur des transports, on est censé circuler tous librement sur le territoire européen avec des carburants qui ont les mêmes qualités, de pouvoir s'approvisionner un peu partout en Europe. Donc, de fait, on est soumis à des règles qui sont définies à l'échelle européenne. Et de la même manière, en ce qui concerne le déploiement des énergies renouvelables au sens large, on a des directives qui sont définies également à l'échelle européenne et qui sont appliquées ensuite dans les différents États membres européens par des lois et des décrets qui sont après du coup, plus précis, avec des mesures plus précises au niveau de chaque État. Donc globalement, en ce qui concerne les biocarburants, au jour d'aujourd'hui, on a déjà une réglementation qui est bien établie depuis un certain nombre d'années. La plupart des réglementations sont dans un premier temps définies par des grands objectifs d'incorporation. Donc l'Europe demande à chacun des États membres européens d'incorporer un minimum de quantité de biocarburants au sein de des carburants qui sont distribués à la pompe au sein de chaque État. Donc il y a un suivi très précis au niveau de chaque État, de tous les carburants qui sont mis à la consommation. Et chaque pays doit pouvoir justifier de la quantité qu'il met pour respecter ses différents objectifs. Et pour ce faire, du coup, chaque État met en place un certain nombre de mesures plus ou moins contraignantes pour que les distributeurs assurent l'atteinte de ces objectifs. Je vous donne l'exemple, donc très concrètement, pour l'horizon 2020, pour le pas de temps 2020, on avait déjà un objectif communautaire très précis. On en a un autre qui est défini pour le pas de temps 2030. Donc à 2020, on avait un objectif de 10% d'incorporation de biocarburants dans les carburants mis à la consommation au sein de chaque État membre. Et pour l'horizon 2030, il y a un premier objectif qui se dessine à 14% et qui est en cours de révision. Donc ça vous donne un peu une idée de la quantité de carburant qui est demandée par chaque État membre. Et du coup, sur la base de ces objectifs un peu globaux, après, chaque État définit les mesures concrètes que les distributeurs doivent respecter pour atteindre ces objectifs. Donc, par exemple, ça peut être des systèmes de défiscalisation ou de taxes, ça dépend des États, hein. Ou alors des mandats, donc des obligations d'incorporation. Voilà, il y a plusieurs systèmes possibles. Donc, en France, notamment, on a un système de taxes qui s'appelle la TIRIB, où, effectivement, les distributeurs de carburant, s'ils ne respectent pas le mandat annuel d'incorporation, payent cette taxe qui est très incitative, hein, c'est-à-dire qu'elle coûte tellement cher que les distributeurs ont plutôt intérêt à respecter le mandat d'incorporation annuel. Donc voilà globalement comment ça se fait et ce qui explique pourquoi au jour d'aujourd'hui, même si les biocarburants sont un peu plus chers que les carburants fossiles, on en a déjà dans nos pompes, comme vous l'avez déjà bien présenté, dans les stations pour l'essence et pour le gazole.
D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. On va passer à la deuxième question, si vous me le permettez. Quels sont les enjeux des biocarburants avancés ?
Alors, les biocarburants avancés. Alors, vous avez fait une bonne introduction qui explique un peu en quoi ils consistent. Effectivement, leurs principaux avantages, c'est de limiter la concurrence avec l'alimentaire. Un point important aussi, c'est qu'ils ont des performances environnementales extrêmement intéressantes. Dans la mesure où on mobilise des résidus, des déchets, du coup, on a une empreinte environnementale qui est moins importante que quand on mobilise des cultures dédiées, hein, des cultures spécifiques. Alors ça, c'est effectivement très intéressant. La seule chose, c'est qu'on est sur des technologies qui sont d'une complexité un peu plus importante que les technologies actuelles et qui, de fait, coûtent plus cher. Donc, si aujourd'hui, avec les carburants, biocarburants conventionnels, on n'est pas loin de la compétitivité avec les carburants pétroliers, hein, on est sur des coûts de revient qui sont assez similaires, on va dire. Bon, ça dépend beaucoup du prix des machines, des matières premières, hein, mais globalement, quand on a un prix du pétrole qui commence à être relativement important comme en ce moment, on n'est pas loin d'une compétitivité biocarburant versus carburant fossile. Donc ça, c'est pour les technologies conventionnelles. Par contre, quand on passe aux technologies un peu plus complexes des biocarburants avancés, là, on est sur des coûts de production, donc soit pour l'investissement au départ, soit sur les coûts opératoires, hein, selon les technologies qui sont plus importantes. Et là, du coup, c'est le principal enjeu, hein, c'est-à-dire comment on incite les distributeurs ou les industriels à investir dans ce genre de technologies, sachant qu'on est sur des surcoûts. Donc qui va supporter ces surcoûts, comment ils vont être rétribués, comment, d'un point de vue économique, le système va pouvoir être rentable. Voilà. Donc ça, c'est les grandes questions du moment. Parce que globalement, d'un point de vue technologique, aujourd'hui, on est à la maturité industrielle. On a des process books qui décrivent clairement les procédés et qui ne manquent plus qu'aujourd'hui que les industriels pour investir globalement.
D'accord. Et par rapport à ces aspects qui ont précédemment été évoqués, quel est le rôle et quels sont les objectifs de la recherche actuellement ?
La recherche, elle a un rôle très important dans le sens où, alors jusqu'à aujourd'hui, il y a eu de très importants programmes de recherche qui ont été mis en œuvre pour développer ces technologies. Donc, historiquement, il y a eu des programmes de recherche pour développer les procédés conventionnels, donc de première génération. Il y a eu des programmes de plus de 10 ans de recherche qui ont concerné les biocarburants avancés. Donc maintenant, ces programmes de recherche, ils arrivent au bout de leur... on va dire au bout de leurs activités, dans le sens où on arrive à des procédés qui sont maintenant connus et démontrés, à l'échelle des démonstrateurs notamment. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est les améliorer. Une fois qu'ils seront commercialement installés, il va falloir perpétuellement faire en sorte d'en réduire les coûts et d'en améliorer l'efficacité. Donc il y aura toujours des actions de recherche pour améliorer ces procédés-là. Ensuite, on peut continuer effectivement à déployer de la recherche sur d'autres technologies. Donc, vous avez notamment mentionné deux grandes familles, vous, de biocarburants avancés, la voie biochimique, la voie thermochimique. Et au sein de ces voies-là, quand on creuse un peu et quand on va dans le détail, il peut y avoir plusieurs variantes. Donc vous, vous en avez cité deux pour être le plus explicite possible. Mais après, quand on creuse, on peut en avoir une diversité un peu plus importante, avec des technologies plus ou moins complexes qui permettent d'aboutir à des produits plus ou moins avec des qualités plus ou moins importantes. Donc la recherche, elle est toujours là aussi pour avoir un maximum de solutions technologiques, qu'on n'en ait pas que une ou deux. Hein. Plus on en aura, plus potentiellement on aura de solutions possibles avec des plus d'acteurs possibles qui vont mobiliser différentes ressources possibles. Donc plus on aura de solutions, plus on sera confortable quelque part. Donc c'est là-dessus que la recherche travaille actuellement. Sans parler des biocarburants de troisième génération, hein, dont on, vous allez probablement en parler par la suite, où là il y a toujours des actions de recherche en cours et qui sont à mener, bien entendu.
Merci beaucoup à vous, Daphné Lorne, pour toutes ces précisions. Donc, on comprend bien que les premières et deuxièmes générations présentent en effet des avantages économiques et environnementaux indéniables, mais qu'ils engendrent néanmoins des conflits d'usage avec les surfaces agricoles et une perturbation des écosystèmes. Alors Alice, est-ce que la troisième génération va répondre à tous ces enjeux ?
Eh bien, il est probable que les algues soient la solution, en effet.
Ah oui, c'est vrai que Julie nous a parlé d'algues tout à l'heure, mais est-ce que ça marche vraiment ?
Et oui, Clara, rouler à l'algue, c'est désormais possible. Alors attention, je ne parle pas des algues que l'on retrouve à la plage et qui nous embêtent quand on se baigne, mais on parle ici de micro-algues. Donc, qu'est-ce que c'est les micro-algues ? C'est des algues microscopiques qu'on ne peut pas voir à l'œil nu et qu'on retrouve en très grand nombre à la surface des océans, des fleuves et des lacs.
Mais alors concrètement, comment ça se passe ? On envoie des bateaux pour aller les récolter ?
Exactement. La première étape va être d'aller récolter ces algues en eau douce ou en mer pour ensuite les cultiver sur terre à grande échelle, en bassin ouvert ou un réacteur fermé.
Et alors, comment se passe la culture d'une micro-algue ? Est-ce que c'est aussi facile qu'une plante en agriculture ?
Alors, il faut savoir qu'au même titre que les plantes, pour se développer, les algues elles vont avoir besoin de lumière, de nutriments et de CO2. Donc, grâce à ces trois ressources, elles vont pouvoir créer leur énergie, qu'elles vont stocker sous forme de lipides et de sucre. Nous, pour fabriquer du biodiesel, il va nous falloir de l'huile, donc ce sont les lipides qui vont nous intéresser ici.
Et alors, concernant ces lipides, quel procédé on va utiliser pour les extraire ?
Alors, dans un premier temps, on va isoler les micro-algues qui nous intéressent et elles vont être ensuite placées en culture dans un photobioréacteur. Donc un photobioréacteur, qu'est-ce que c'est ? C'est un grand tube fermé et éclairé pour produire des algues de façon contrôlée et continue, et qu'elles produisent ainsi un maximum de lipides. Ensuite, pour récupérer ces lipides, il va falloir les mélanger avec du solvant pour séparer les différents constituants de la cellule, pour ensuite avoir d'un côté les lipides qui nous intéressent, et de l'autre côté les sucres, les protéines et autres constituants de la cellule. Et une fois que le solvant est évaporé, il ne nous reste que l'huile.
D'accord, c'est bien beau tout ça, mais une fois qu'on a nos lipides, qu'est-ce qu'on en fait ? Nos voitures ne roulent pas à l'huile.
En effet, Julie, tu as raison. Pour transformer l'huile en carburant, il va falloir faire un peu de cuisine chimique. Donc on va mélanger cette huile d'algues avec de l'alcool à hauteur de 10%. On va ensuite y ajouter un catalyseur. Donc un catalyseur, c'est quoi ? C'est une substance qui va accélérer la réaction chimique. Et donc le procédé que je suis en train de vous expliquer, c'est le même procédé qui est utilisé pour la production de MVH, dont parlait Julie tout à l'heure. Donc au bout de quelques heures, on obtient ensuite de l'algocarburant.
Mais alors, quel est l'avantage de cultiver des micro-algues plutôt que du colza, par exemple, pour fabriquer du biocarburant ?
Alors, il faut savoir que la culture de micro-algues possède de nombreux avantages par rapport au biocarburant conventionnel. Le premier avantage qu'on va observer, c'est que la culture de micro-algues permet d'avoir de très bons rendements. Ce qui est intéressant avec ces organismes, c'est qu'ils ont un taux de croissance beaucoup plus élevé que le colza. En effet, par exemple, pour le colza, il n'y a qu'une moisson par an. Alors que pour les algues, on peut les moissonner tous les jours, parce qu'elles se multiplient en fait en continu. Donc si on arrive à optimiser un maximum la production de ces micro-algues, on pourrait arriver dans le futur à produire plus de 10 litres d'huile d'algues par mètre carré par an, contre 0,2 litres d'huile de colza aujourd'hui.
Et en plus, j'imagine qu'on ne retrouve plus le problème des surfaces et qu'on peut les cultiver n'importe où et que, de fait, elles ne dépendent pas des saisons.
C'est ça, exactement. Et ce n'est pas tout. Tout à l'heure, je vous ai dit que les micro-algues se nourrissaient de lumière, de nutriments comme le phosphate et l'azote, mais également de CO2. En fait, les micro-algues possèdent une très grande capacité de captage du CO2. Il faut savoir que pour produire une tonne de biomasse, les microalgues vont consommer seulement 2 tonnes de carbone. Donc c'est super intéressant. Et il y a même une expérience à grande échelle qui a montré que la capacité d'absorption d'un hectare de microalgues marines est environ 10 fois supérieure à celle d'un hectare de forêt terrestre. Certaines entreprises s'y intéressent même de plus en plus et commencent à réfléchir à un système où les microalgues pourraient servir de moyen de captage du CO2 émis par leur activité industrielle.
Ça, c'est vraiment super parce que ça veut dire qu'en plus de produire du biocarburant, la culture de microalgues permettrait de réduire la présence dans l'atmosphère de ce gaz à effet de serre.
Vu comme ça, on dirait que les microalgues sont la solution miracle.
Alors oui, c'est vrai qu'elles présentent des caractéristiques très intéressantes. Néanmoins, elles continuent quand même à faire face à de nombreux challenges. Le premier challenge va concerner le bilan énergétique de la production de biocarburant algal qui aujourd'hui est peu efficient. Car la Chine, par exemple, qui est un pays précurseur de la production d'algues, consomme encore beaucoup d'énergie pour la culture des algues et aussi pour les étapes de séparation entre l'algue et l'eau, et l'huile et l'eau également. De plus, la Chine dépend du charbon pour la production d'électricité qui remet en cause, du coup, le bilan environnemental de la filière. Le deuxième challenge qu'on va observer, c'est en fait le passage à l'échelle industrielle du système de culture. Tout à l'heure, je vous expliquais que les microalgues étaient cultivées dans des photobioréacteurs qui sont en fait des milieux fermés. Donc c'est des milieux qu'on va contrôler intégralement et en plus à petite échelle. Donc ça s'explique par le fait qu'on est encore en phase expérimentale, mais pour le futur, le but ça va être de produire à grande échelle pour industrialiser ce type de biocarburant.
Donc si j'ai bien suivi, aujourd'hui il n'existe pas encore de biocarburant de troisième génération sur le marché, c'est bien ça ?
Voilà, malheureusement, non, pas encore. On manque encore de connaissances sur le sujet. On n'est pas vraiment prêt à lancer la commercialisation. Et puis, il reste encore à déterminer l'espèce d'algue la plus performante pour produire du biocarburant, donc celle qui sera en fait la plus productive et la plus facile à cultiver. Et celle qui sera également résistante aux contaminations. Donc, pour produire à grande échelle, la qualité des souches utilisées est vraiment déterminante car on va faire face à des contraintes qu'on ne rencontre pas forcément à petite échelle. Et il faut savoir que depuis les années 2000, les investissements pour la recherche sur ces microalgues ne font qu'augmenter, donc c'est assez encourageant. On parle de plusieurs millions d'euros investis chaque année par les entreprises de tous les secteurs.
On sent que les entreprises de tous secteurs sont déterminées à faire avancer la recherche et anticiper un futur plus ou moins proche sans pétrole.
Oui, voilà, c'est sûr. Et il faut vraiment que ça continue, car en effet, produire du biocarburant à base d'algues coûte encore assez cher. Et les prévisions qu'on a pu faire en imaginant des systèmes de production de microalgues à grande échelle nous amènent à des calculs de coûts qui seraient de l'ordre de 10 euros le litre de carburant.
Merci Alice pour toutes ces informations sur les biocarburants de troisième génération. Mais alors au final, vous en pensez quoi des biocarburants, les filles ?
Alors, pour moi, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Toutes les générations de biocarburants ont finalement leurs avantages et défauts. Et je ne pense pas qu'une seule génération prévale sur les autres. Je pense en fait que les trois générations ont toutes leur place sur le marché des biocarburants.
Je suis d'accord. En tout cas, ça pousse à réfléchir sur nos trajets en amont et on se rend compte qu'il y a beaucoup de progrès à faire dans la recherche. Mais en tout cas, à notre échelle, on peut agir sur la réduction des petits trajets inutiles en voiture.
Oui, tout à fait d'accord. Donc, après avoir ouvert la discussion sur ces divers sujets, nous tenons à remercier le studio d'enregistrement de Campus FM de Toulouse pour nous avoir permis de réaliser ce podcast aujourd'hui. C'est une très belle opportunité qui nous permet de découvrir le monde de la radio. Nous remercions également Madame Daphné Lorne de l'IFP Énergie Nouvelle pour son éclairage, ainsi que l'École d'ingénieurs de Purpan de nous avoir encadrés pour ce projet. Nous espérons que cette émission vous a plu et vous a permis de vous faire votre idée sur les biocarburants. N'hésitez pas à écouter de nouveau les émissions Agro J'écoute en podcast sur le site internet de Campus FM de Toulouse. Nous vous souhaitons une très belle journée. À bientôt.